Nous parlons depuis 2 ans de liberté. Pourquoi on parle de liberté? C'est parce qu'on a été comme brimé dans nos libertés à cause de toutes les mesures sanitaires. Mais ce matin, je ne vous parlais pas de liberté, je vais vous parler de libération. On vit dans un pays libre, mais on a besoin de libération, on a besoin d'être libéré. Pas qu'on est en prison, mais ceux qui sont croyants ici ont été libérés de leur péché, du fardeau de leur péché, du châtiment qui leur pesait sur la tête, l'enfer pour l'éternité. Donc, ont été libérés de ça par Jésus, par sa mort sur la croix. Et ce matin, je vais vous parler d'une autre libération. Et c'est ça qui m'a été alloué dans le cadre de Libération 21. Donc, c'est de libérer ceux qui sont opprimés. Et seul Jésus peut nous libérer de notre passé. Donc, ce matin, on va parler pas libération du péché comme tel qui nous envoie en enfer, mais libération des fardeaux, des blessures du passé. Et on sait que ces blessures du passé-là vont nous amener bien souvent à faire des péchés et à nous causer beaucoup de difficultés dans notre vie chrétienne. C'est pour ça que c'est important d'adresser ces choses-là ce matin. Et nous vivons dans un monde dur et tous ont été blessés là, d'une façon ou d'une autre dans leur vie adulte et majoritairement dans leur vie d'enfant, parce qu'on est plus vulnérable lorsqu'on est enfant. Donc, il est possible que vous ayez été blessé volontairement par quelqu'un qui vous a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Agression physique, agression verbale, des choses qui ont été faites contre vous, qui vous ont blessé. Et il est possible aussi que vous ayez été blessé par quelque chose que quelqu'un n'a pas fait et qu'il aurait dû faire. Quelqu'un aurait dû vous protéger. Il ne l'a pas fait. Quelqu'un vous a abandonné. Quelqu'un n'a pas pris sa responsabilité envers vous et vous avez été blessé. Il manque quelque chose dans votre vie. Et ce matin, si on voyait sur les visages ici les blessures émotives, les blessures du cœur, comme on verrait les blessures physiques, on pourrait voir des cicatrices sur le visage de tout le monde, pas mal tout le monde. Et je compare les cicatrices aux blessures qui sont guéries. Et on pourrait aussi voir des blessures non guéries. Et là, on verrait les blessures ouvertes qui saignent sur vos visages. On ne les voit pas, c'est sur votre cœur. Mais si on voyait, c'était sur votre visage, on les verrait. Les blessures qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été soignées, que vous connaissez peut-être même pas, mais qui vous influencent dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Donc, nous vivons dans un monde brisé, avec des gens brisés. Il est pratiquement impossible de traverser notre enfance sans être blessé d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des exceptions, des heureuses exceptions, où des gens disent, wow, moi j'ai eu une super de belle enfance, j'ai rien approché à mes parents, à l'école ça a super bien été, et je n'ai pas vécu de blessures dans mon enfance. Et je ne veux pas ce matin ici chercher des bébites là où il n'y en a pas, OK? Mais je veux tout simplement regarder ceux qui voient qu'il y a un problème dans leur vie, qui pensent que ça peut être causé une blessure du passé, regardez ça ensemble. Et le fait de devenir chrétien, ça ne guérit pas tout. Ça guérit une partie, oui, de nos blessures, mais ça ne guérit pas tout. Et même les activités de l'Église, ça, c'est bon, il faut en faire, il faut être avec Dieu et tout ça, il faut servir. Mais toutes les activités ne guérissent pas nécessairement nos blessures physiques. Et je peux être impliqué dans plein de choses, et physique, mais c'est émotionnel, les blessures du cœur. Donc, et comme pour les blessures physiques, les blessures émotionnelles, il y en a qui peuvent être plus graves que d'autres. J'ai essayé de déterminer qu'est-ce qui était plus grave ou pas, mais j'ai pas été capable parce que ça dépend des personnes. Quelqu'un peut être blessé par une simple remarque, alors qu'un autre, ça le dérange pas. Mais il y a des gens qui ont été vraiment agressés plus gravement. On parle des agressions sexuelles chez les enfants, physiques chez les enfants. Donc ça, c'est vraiment grave. Mais j'ai de la difficulté à mettre des niveaux parce que ça dépend des personnes. Des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, sont plus affectées que d'autres. Et on ne peut pas dire, ah ben moi, ce que j'ai vécu, c'est grave. Toi, ce que tu as vécu, c'est pas grave. Fais tout le temps pas avec ça. Ou dire, ben, par rapport à un autre, moi, je sais pas. Grave ce que j'ai vécu, tu sais, j'ai pas été agressé physiquement, sexuellement, mais on peut avoir été agressé quand même dans notre personne, dans nos valeurs, dans notre valeur. Donc, et je disais que les blessures de notre enfance sont profondes, Parce qu'un enfant, c'est fragile, vulnérable, naïf. Et un enfant prend les choses comme elles viennent. Et l'enfant ne remet pas en question tout de suite. Il prend les choses comme elles arrivent. Et souvent, il va se glisser des mensonges lorsqu'un enfant est abusé ou verbalement ou physiquement ou peu importe. Donc, il y a un mensonge qui se met là parce que l'enfant prend les choses telles qu'elles sont. Il ne remet jamais ça en question. Donc, maintenant, on va regarder ensemble comment Jésus peut guérir nos blessures. Et je suis conscient quand même de mes limites, puis des limites d'une prédication, pour expliquer comment guérir les blessures du passé, parce que certaines personnes auront besoin de thérapie, d'une approche plus personnelle dans leur cheminement. Donc, on va tourner un prochain tableau, comment venir à Jésus pour avoir à libérer dans notre passé. Mais je n'ai pas la prétention que faire thérapeute et guérir tout le monde émotionnellement. Et parce que le travail, c'est avec vous et le Seigneur principalement. Et même si une personne vous suit, c'est entre vous et votre intimité avec le Seigneur qui va faire que vous allez pouvoir guérir de vos blessures du passé. Donc, nous allons aller à notre texte, prendre une gorgée d'eau. C'est le texte qu'on utilise pour Libération 21. Et c'est Jésus. On trouve ce texte-là dans Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Et c'est un texte important parce que c'est la première chose que Jésus a faite au début de son ministère. Il est arrivé dans la synagogue, on lui a remis le rouleau du livre d'Ésaïe, et il a déroulé, puis il est arrivé sur ce passage-là. Donc, c'est comme Jésus voulait dire, c'est ça que je suis venu faire sur la terre. C'est ma mission. Donc, on va le lire ensemble. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, donc l'Évangile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, on parle de ça ce matin, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc, principalement de ça aussi qu'on parle ce matin, donc être libéré de fardeau. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est important. Encore une période de grâce avant son retour. Donc, libérer les opprimés. On regarde ça ce matin. Et d'après le dictionnaire, quelqu'un qui est opprimé, c'est quelqu'un qui a été accablé par la violence, par des abus d'autorité, écrasé sous un poids. Donc, ici, c'est l'idée de nous libérer d'un fardeau inutile qu'on porte. Là, on va prier avant d'aller plus loin. Toi, grand Dieu, merci pour le temps qu'on peut mettre à part ce matin. Merci aussi parce qu'on a la liberté de maintenant de venir à l'Église. Et Seigneur, on te prie que tu sois avec moi, ton serviteur, que tu m'aides à dispenser droitement ta parole. Et je te prie que par ton esprit, Seigneur, tu touches les cœurs ce matin, comme toi tu seul peux le faire. Parce que moi, je ne peux rien faire, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument. Je te prie que toi, Seigneur, tu touches les cœurs et que par ta parole, Seigneur, tu guérisses ceux qui ont besoin d'être guéris. Dans le nom de Jésus. Amen. Petite mise en garde aussi, c'est que souvent, on va mettre plus l'accent sur la guérison, sur notre bien-être, que sur la connaissance et la gloire de Jésus. Et beaucoup d'églises, surtout aux États-Unis, on regarde le bien-être, être bien soi-même, au lieu de dire, oh, je dois obéir à Jésus. L'obéissance devient secondaire. Ici, je vais vous citer un thérapeute chrétien, M. Larry Crabb, et qui a fait une petite mise en garde à ce niveau-là. Il dit, dans son livre « À la découverte de Dieu », le monde actuel a troqué la quête de Dieu au profit de la quête de soi. L'amour de soi est devenu une vertu, la vertu la plus noble, et la haine de soi, le péché le plus grave. Donc, l'Église, bien souvent, pour avoir attiré des gens, bon, c'est on va soigner les gens. C'est bon, et Dieu veut qu'on guérisse, et c'est de ça qu'on parle ce matin. Mais je veux tout simplement mettre les choses en contexte, que c'est pas ça qui est le plus important, c'est qu'on peut mourir avec nos blessures. Je veux dire, que moi, j'ai été sauvé, j'avais 22 ans, Le Seigneur m'a sauvé, j'ai la vie éternelle. Mais ça a pris plusieurs années avant que je comprenne qu'il y avait des blessures dans ma vie qui m'affectaient et que Dieu m'a aidé à faire le ménage là-dedans, à pardonner à ceux qui m'avaient agressé. Donc, le plus important, c'est vraiment d'être sauvé et de rechercher la personne de Dieu et non pas seulement mon bien-être. Deuxième paragraphe, il est devenu plus important pour l'homme de se sentir mieux que de trouver Dieu. Donc, c'est pour ça, c'est pas juste je vais être bien, mais c'est trouver Dieu, chercher Dieu. Et les trois dernières prédications que j'ai données, c'était cherchons la face de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder pour être la délivrance de nos blessures du passé. Je donne un exemple. Des lépreux qui ont été guéris. Il y en a 10 qui ont été guéris et il y en a un seul qui est revenu. On va voir le texte ici dans Luc chapitre 17, versets 15 à 18. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc, le fait qu'il ait été guéri physiquement, lui, il a glorifié, il a donné la gloire à Dieu. C'est ça qui était le plus important pour lui. Il dit pas, oh, je suis guéri, oh, wow, je suis mieux. C'est drôle, hein? Il a donné la gloire à Dieu. Mais il y en a seulement 1 sur 10 qui a fait ça. OK? Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce, donc des actions de grâce ici. C'était un Samaritain en plus. Verset 17, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Et s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner, revenir et donner gloire à Dieu? Donc, c'est la gloire à Dieu qui est primordiale. Je vous cite encore M. Larry Crabb, il dit, « Pendant des siècles, là, l'Église a enseigné que le peuple de Dieu avait pour objectif suprême de glorifier Dieu et de trouver ses délices en lui. » C'est encore vrai. C'est ça, l'objectif suprême de l'Église, glorifier Dieu et de trouver notre joie en lui. Tout le reste va en découler. On continue. « Aujourd'hui, elle, c'est-à-dire l'Église, enseigne trop souvent que l'objectif suprême de Dieu est de faire du bien à son peuple. » Oui, c'est vrai que Dieu veut faire du bien à son peuple, et c'est ça que je vais vous parler ce matin, mais ce n'est pas le but suprême. Le but suprême, c'est que Dieu soit glorifié, et quand Dieu est glorifié, tout revient dans l'ordre. Je donne simplement un exemple. Vous arrivez, vous êtes sur la route, quelqu'un devant vous fait un embardé, puis l'auto renverse, vous sortez pour aider, la personne, le conducteur, a été éjecté, il y a dans un fossé, la tête dans l'eau, et il y a une jambe toute brisée. Puis là, vous dites, je vais soigner sa jambe. Non. Sors la tête de l'eau plus vite. C'est un peu ça, je veux dire. Donc, la conversion, c'est un peu ça. Dieu nous a sorti la tête de l'eau, de sauver l'éternité, et après, on guérit la blessure. C'est dans cet ordre-là qu'il faut voir ça. Hein? Mais les blessures du cœur ont des conséquences. Et souvent, ce sont ces conséquences, ces péchés-là qui en découlent, qui nous permettent de voir qu'il y a peut-être quelque chose de sous-jacent qu'on ne connaît pas et qui nous fait qu'on a plus de difficultés à résister à la tentation. Je vais vous donner quelques conséquences dans la vie de tous les jours de nos blessures. Bon, premièrement, les souffrances, perte d'estime de soi, pas de valeur, culpabilité, sentiment d'infériorité. On peut être porté à rabaisser les autres parce qu'on se sent bas, on peut mais c'est les autres. On peut avoir la mèche courte aussi, se mettre en colère facilement. On dit aussi soupe au lin. Crainte de l'échec, parce qu'on n'est pas sûr de nous, on a peur d'échouer. Peur des critiques, on réagit à la moindre critique. On va s'isoler pour se protéger. On ne peut pas tout ça, là, mais ce sont des différentes choses qu'on peut faire. On peut avoir un désir démesuré de plaire aux autres. On peut avoir une grande susceptibilité. On est frustré pour pas grand-chose. Donc, ces choses-là, habituellement, ça peut être causé par les blessures qu'on a et qui font qu'on réagit comme ça. Et c'est souvent à partir de ces péchés-là, ces comportements-là, qu'on peut remonter à la blessure. Et aussi, malheureusement, ça peut amener des dépendances. L'alcool, la drogue, etc., la pornographie. Donc, on a 3 attitudes face aux blessures. Première attitude, c'est de les ignorer. Donc, surtout pour un homme n'est pas supposé de souffrir ou d'être blessé ou de s'en faire avec ça. Au moins, oui, j'ai été blessé, mais c'est pas grave. Je suis capable de vivre avec ça. Okay? Les femmes sont plus ouvertes à aller fouiller pour trouver leurs blessures parce qu'ils sont plus affectés souvent. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on est un homme qu'on doit moins aller voir nos blessures. Au contraire, on est plus porté à ce qu'ils soient cachés. Donc, demandons au Seigneur qu'il nous les révèle. Je vous donne ici une citation de M. John Eldredge. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'indomptable ». Il est écrit pour les hommes. Excusez, madame. Il est écrit spécialement pour les hommes. Vous n'avez pas le droit de lire ce livre-là. Donc, lui, il dit, « Une blessure qui n'est pas reconnue et qui n'a pas fait pleurer est une blessure qui ne peut guérir. Une blessure à laquelle vous vous êtes accommodé ne peut guérir. Une blessure que vous considérez comme méritée ne peut guérir. » Donc, si j'ai une blessure puis je l'ignore, je ne peux pas en guérir. Et j'ajouterais, une blessure que je ne ressens pas est une blessure non guérie. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on peut essayer de l'engourdir. Alors, ça peut être la boisson, la drogue, pornographie ou autre dépendance, engourdir la blessure. Ou, comme j'ai dit tout à l'heure, ça produit qu'on a moins de difficultés à résister à certains péchés, certaines tentations. Ou aussi, on peut devenir légaliste. On va se réprimer, on va faire tous nos efforts pour obéir à Dieu. Comme Dieu est un Père sévère, j'ai des tentations, des choses, il faut obéir pareil. Mais je ne dis jamais à Dieu combien je souffre. Malheureusement, je ne goûte pas à l'amour de Jésus, à la grâce de Jésus. Je vis ma vie chrétienne par mes propres forces. Et je dis, je suis une femme, un homme fort, je suis une femme forte, une femme courageuse. Pour m'en sortir, je suis capable. Une autre citation ici, Rusty Rochtenbach, dans son livre « La prière d'écoute et la guérison intérieure ». Afin de nous protéger, nous enfouissons nos blessures émotionnelles au plus profond de nous-mêmes pour ne pas être blessés à nouveau. Donc, on a été blessés et on ne veut pas les refouiller là-dedans parce que ça fait mal. Et ce qui arrive, c'est souvent c'est que quand on est adulte, il arrive une situation, inconsciemment, on ne le réalise pas, mais on réagit comme un enfant parce que cette chose-là n'a pas été guérie. On réagit comme un enfant. Et tant que ce n'est pas guéri, on va avoir de la misère à avoir un contrôle, on va réagir comme un enfant. Donc, on continue à long terme. Cette façon de faire ne marche pas. Les émotions que nous enfouissons sont enterrées vivantes et semblables à un explosif. Elles vont finir par nous influencer négativement, même si nous ne nous en rendons pas compte. Donc, on enfouit ça, puis ça nous influence négativement. Et on peut en être conscient. On ne dit pas, c'est à cause de ma blessure que j'agis comme ça. On ne sait même pas bien souvent. Donc, demandons à Dieu de nous révéler nos blessures, ne pas les ignorer. Et les gens qui venaient à Jésus pour être guéris, il y avait des blessures physiques, des handicaps, lépreux, aveugles, paralytiques. C'était facile au niveau physique de voir les blessures. Mais au niveau émotionnel, c'est plus difficile. Donc, première réaction, face à une blessure, l'ignorer. Deuxième réaction, reconnaître que j'ai été blessé et en vouloir à Dieu pour ce qui est arrivé. Oh. Pourquoi Jésus n'a pas empêché cela, que je sois agressé? Pourquoi Jésus n'a pas empêché que je vive l'intimidation à l'école, que je me fasse écraser? Et il y a un mensonge que le diable met dans notre cœur, c'est Jésus t'a abandonné. Jésus n'était pas là pour toi. Tu ne peux pas compter sur lui. Jésus, il ne t'aime pas. Bon. Donc, ce mensonge-là embarque. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'on peut blâmer Jésus pour qu'est-ce qu'une autre personne m'a fait? Ce n'est pas Jésus qui l'a fait, c'est une autre personne qui l'a fait. Et on vit dans un monde dominé par le péché, contrôlé par le diable qui est le prince de ce monde, et on n'est plus dans le jardin d'Éden. Donc, on vit tous la malédiction du péché. On a tout simplement pensé à toutes les guerres qu'il y a actuellement. Vraiment que le prince de ce monde agit. Et on vit tous les conséquences de la malédiction du péché. Et Jésus aussi a vécu les conséquences de la malédiction du péché. Jésus a été agressé au plus haut point sur la croix. J'ai été agressé à ce point-là comme mettre tout nu sur une croix, flageller les tout dans les mains et les pieds, me laisser mourir là. Et personne n'était là pour Jésus. Même son père l'a abandonné. Hein? C'est vrai que dans le jardin de Gethsémané, c'était pas Jojo, là. C'était difficile. Il savait qu'il serait abandonné. Nous, des fois, on a, comme moi, j'enseignais, et le Seigneur me dit, je vais être avec toi. Il est avec moi. Mais Jésus, quand dans le jardin de Gethsémané, il dit, Père, vas-tu être avec moi? Non, Père, il dit, je vais t'abandonner. Ouh! Donc, il savait qu'elle allait être agressée sévèrement jusqu'à la mort, mais que le Père allait l'abandonner sur la croix. Il n'avait pas le choix. Il voulait qu'on porte nos péchés sur la croix en devenant pécheur. Le Père n'avait pas le choix de l'abandonner. Donc, Jésus était agressé pour moi. Il a dû mourir sur la croix à cause de mes péchés. C'est vrai que Jésus n'a pas empêché telle ou telle personne de te blesser, de te faire du mal. Mais Jésus est peut-être plus que cela pour toi. Jésus était là pour toi dans le jardin de Gethsémané et à la croix. Il était là pour toi pour ce qui était le plus important. Et le plus important, c'est que tu sois sauvé, que tu sois avec lui pour l'éternité. C'est sûr que ce que tu as vécu sur terre, c'est grave. La blessure que tu as peut être immense et très, très grave. Mais le fait d'être perdu pour l'éternité, c'est encore des milliers de fois pire que ça. Et Jésus était là pour toi à la croix pour que tu sois sauvé pour l'éternité. Il est là pour chacun de nous. Donc, Jésus a empêché le diable qui nous tenait de nous entraîner avec lui en enfer. Donc, il y avait un agresseur, là. Il est encore là, l'agresseur. Il voulait nous amener avec lui en enfer. Jésus nous a rachetés. Jésus nous a délivrés. Et il y a justement un verset là-dessus dans Colossiens 1:13. Nous lisons qui, en parlant du Père, si c'est dans le contexte, c'est le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, on était pris, enchaînés dans les ténèbres. Et si Jésus n'était pas venu, on aurait continué comme ça jusqu'à notre mort et on aurait passé la vie éternelle enchaînés dans les puissances des ténèbres, en enfer, avec le diable, dans les temps de feu et de souffle. On continue. Donc, nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés. Donc, il y a quelque chose de physique. S'il nous a pris, la puissance des ténèbres nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On était pris avec le diable qui nous haïssait, qui nous voulait du mal. Maintenant, nous sommes dans le royaume du Fils de son amour qui nous aime. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire on est pardonné, nos péchés sont remis, rémission des péchés. Donc, c'est pratiquement un synonyme. Donc, on a ça en lui. Donc, oui, il nous a délivrés. Qu'est-ce qui était le plus important? Donc, Jésus était là pour toi lorsqu'il a pris ton péché à la croix. Et Jésus a choisi d'être là, là où c'était le plus important. Accepter d'être violemment agressé jusqu'à la mort. Et pas juste pour mes péchés, mais à cause de mes péchés, à cause de moi qui étais là. En fait, c'est nous qui l'avons mis sur la croix. Si je n'avais pas été pécheur, Jésus ne serait jamais allé sur la croix. Donc, à un certain point, je suis agresseur moi-même. Hein? Et si j'avais été là à l'époque de Jésus, pas possible que j'aurais dit crucifié là aussi. Et, il ne faut pas dire, ah, c'est eux autres. Et non, c'était vraiment à cause de moi. Ceci dit, ça ne signifie pas que Jésus ne s'intéresse pas à tes blessures. Au contraire. Donc, Jésus est là aujourd'hui pour te guérir de tes blessures, il est encore là pour toi. Donc, nous lisons dans Ésaïe, chapitre 49, versets 14 et 15. Cependant, Sion, donc c'est le peuple d'Israël, Sion, donc on peut, c'est comme nous, là, aujourd'hui, là. L'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, après avoir été agressé, on peut dire, Seigneur m'a abandonné, Seigneur m'a oublié. Le Seigneur n'était pas là pour moi. Il répond, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Donc, c'est Dieu qui a créé la femme, c'est Dieu qui a créé l'instinct maternel, le désir de nourrir, de prendre soin de son enfant. Et les mères et les pères, ceux qui ont eu des enfants, et tout le monde sait que comment une femme peut être maternelle, comment elle peut être protectrice pour son enfant. Donc, Dieu dit, voyons, je t'ai pas oublié. Une mère fait pas ça, puis c'est moi qui ai créé ça chez la mère. Tu sais bien, je t'oublierai pas, comme une mère ne t'oubliera jamais. Dieu, sachant qu'on n'est pas parfait, il sait que peut-être qu'une mère peut oublier, il dit à la fin, l'avant-dernière ligne, même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai jamais. Donc, même si une mère, malgré son instinct maternel, ne protégeait pas son enfant, moi, je t'oublierai jamais. Donc, il est là toujours, il ne t'a pas oublié. Et peut-être que votre blessure vient de la famille aussi. Et Dieu n'est pas comme une personne qui vous a blessé. Lui, il ne vous oubliera jamais. Il se soucie de nos blessures. Il veut qu'on jouisse de notre identité en lui comme étant pardonné et aimé. Donc, on a vu les attitudes face aux blessures. Soit que je l'ignore, soit que je la reconnais et j'accuse Dieu pour m'avoir laissé faire abuser. Et la troisième, qui est la bonne réponse, c'est reconnaître mes blessures et venir à Jésus pour avoir la guérison. C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Non, on voit ça tout de suite. Donc, les personnes qui ont été guéries de blessures émotionnelles peuvent dire après, oh, je lutte moins avec certains péchés. Elles sont plus authentiques, plus près de leur cœur, de leurs émotions. Elles servent le Seigneur avec de meilleurs motifs et non pas pour des raisons légalistes. Et elles goûtent davantage à l'amour de Jésus. Parce qu'elles ont vu comment Jésus pouvait être près d'eux, pouvait les guérir. Maintenant, nous allons regarder c'est quoi notre attitude lorsqu'on doit venir à Jésus. Et encore là, je vais citer M. Larry Crabb, qui est un spécialiste en thérapie. Il dit, « Le Seigneur nous invite à venir à lui tel que nous sommes, sans faux semblant. » Donc, le Seigneur nous invite à venir à lui. « Tel que je suis, je viens à toi. » On chante ça lorsqu'on vient pour lui donner notre vie, pour être sauvé. Ici, on vient à lui tel que nous sommes, sans faux semblant. C'est-à-dire, devant Jésus, on ne peut pas dire, on ne peut plus rien cacher, là. T'sais, on va aller à lui, je ne te dis pas tout de Jésus, là, tu sais. Il sait d'avance. Donc, on va simplement l'admettre, lui confesser. Qu'est-ce qu'on est? Donc, pas faire semblant qu'on n'est pas comme ça ou qu'on se sent différemment. Donc, avec nos douleurs réellement ressenties. Donc, aller devant Jésus, dire, oh, Jésus, là, quand je reviens sur cette blessure-là, j'aime pas ça parce que je sais que ça fait mal. C'est mal, mais il demande de venir à lui avec ça parce que le lépreux est allé avec Jésus avec sa lèpre. Donc, je dois venir à lui avec douleur de ma blessure, lui présenter. Donc, avec nos douleurs réellement ressenties. Notre colère, sincèrement reconnue. Oh, parce que la colère, c'est un péché, là. Une blessure, c'est pas péché, mais une colère, c'est péché, puis on a honte. Non, Jésus, tout ce qui est arrivé, je suis en colère. C'est comme si on voudrait lui cacher ça. On a peur de lui avouer. De toute façon, il le sait. Oui, je suis en colère à cause de ça. Ensuite, il a le désir profond de voir notre âme comblée d'une nourriture qui satisfait pleinement. Donc, le désir d'amener à lui qui nous comble, qui nous guérisse. Et en profondeur. Donc, Jésus se soucie de nos blessures. Plus qu'on peut le penser. Et comment Jésus fait ça? Premièrement, Jésus va nous aider, demandons-lui qu'il nous aide à comprendre la gravité de notre blessure. Peut-être qu'on n'en a pas de blessure, mais est-ce que j'en ai des blessures? Si j'en ai, révèle-moi-la. Et demandons à Jésus qu'il nous aide aussi à identifier le mensonge qui est venu avec la blessure. Ah oui, parce que Jésus est la vérité et il veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Mais le diable, lui, il veut qu'on croie au mensonge. Il est le père du mensonge. Donc, puis les mensonges sont adaptés selon les personnes, selon le traumatisme. Et les mensonges qui viennent avec la blessure nous empêchent de profiter de vraiment notre liberté en Jésus et de vivre selon notre cœur. Je vais vous en donner quelques mensonges qui viennent avec la blessure. Quelqu'un vous a agressé, quelqu'un rit de vous, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez? Tu mérites ce qui t'est arrivé. Il y avait raison de faire cela. Il a bien agi envers toi. Tu es trop sensible. C'est ta faute de provoquer. Tu devrais avoir honte. Tu es sale, coupable. Tu n'as aucune valeur. Tu ne savais pas, mais je te le dis, là. Aucune valeur. Tu es une mauvaise personne et tu mérites de souffrir toute ta vie de cela. Sans doute que ces mensonges-là, ça a résonné dans vos têtes. Hein? Moi, ça a résonné dans la mienne aussi. Et ce sont des mensonges. Et si c'est un abus de nature sexuelle et que l'enfant a eu un certain plaisir, une certaine relation, intimité avec l'abuseur, il peut se sentir encore plus coupable. Plus coupable. Et l'abuseur a pu le manipuler, il va se sentir coupable. Et c'est un autre mensonge. Imaginez qu'est-ce que vous éprouveriez si cette blessure-là que vous avez vécue était infligée à quelqu'un, un enfant que vous connaissez, que vous aimez, mais vous êtes adulte, OK? Et là, vous voyez l'agresseur qui agresse l'enfant ou qui dit des choses pas correctes à l'enfant. Et là, vous êtes là, et là, vous pouvez juger avec votre conscience d'adulte. Est-ce que vous diriez à l'enfant, « Tu mérites ce qui t'est arrivé? » Ah, oh, il a bien agi. Ah, oh, l'enfant est bien trop sensible. Est-ce qu'il dit à l'enfant devrait avoir honte? Est-ce qu'il dit à l'enfant, tu n'as pas de valeur à ce qui t'est arrivé? Non! L'adulte dirait, il y aurait de la compassion. Il serait fâché après l'agresseur, mais il y aurait de la compassion. Donc, c'est plus facile de voir la vérité lorsqu'on est à l'extérieur. Mais quand on est dedans, il y a un mensonge. Surtout quand on est enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend les choses telles qu'elles arrivent sans les remettre en question. Donc, je vous invite à demander à Jésus d'identifier les blessures, mais aussi le mensonge qui est venu avec la blessure, parce qu'il y a toujours un mensonge qui vient avec ça. Jésus est doux et humble de cœur, il vous aime. Et qu'est-ce que Jésus aurait fait, lui, à la place de cette personne, si Jésus avait été là? Prenez chacune de vos blessures, là. C'est la personne qui vous guérit de vous ou qui vous a abusé. Si ça avait été Jésus, est-ce que Jésus aurait dit, « Ah, t'es lette. » Non, Jésus aurait dit, « C'est une mature créature merveilleuse que j'ai créée et c'est comme ça que je veux t'utiliser. » Donc, mettons Jésus à la place de l'agresseur, comment Jésus aurait agi? Et ça aide à remettre la vérité. Donc, le traitement humiliant qui vous a été infligé, ça n'a aucun rapport avec votre valeur personnelle. Malheureusement, il y a un mensonge qui embarque. Et le mensonge conduit à une mauvaise stratégie. Donc, il y a des suites, là. Blessure, mensonge, mauvaise stratégie. La mauvaise stratégie, parce qu'il faut la protéger, notre blessure, il faut se protéger. Et on peut devenir contrôlant pour protéger. On peut s'engager seulement dans les choses pour lesquelles on est compétent. On ne veut pas faire rire de nous autres, on ne veut pas avoir d'échecs, juste des choses où on est compétent. On peut avoir super peur de déplaire, ou pas se faire chialer après, ou être aimé, ne pas être abandonné. Pour les filles, il y a une particularité. Les filles peuvent chercher la protection d'un homme plus que celle de Dieu. Chercher dans un homme la protection au lieu de leur relation avec Dieu. Une fille peut aussi essayer d'attirer les regards ou l'attention et même avoir un besoin excessif d'être désirée comme stratégie là, pour couvrir sa blessure. Donc, Jésus nous invite à venir à lui avec notre blessure. Quand on a une blessure physique, on va voir le médecin. Pendant la pandémie, il y avait la télémédecine. C'est sûr que ça ne guérissait pas, c'est arrivé avec une coupure en télémédecine, ça ne marche pas. Donc, pour être guéri, il faut aller voir le médecin qui fasse les points de suture qui guérissent le bobo, la blessure. Donc, même chose, pour être guéri d'une blessure émotionnelle, tu ne dis pas, « Oh, Jésus, guéris-moi, amen. » Non, il faut aller devant Jésus, avec Jésus, dans une attitude d'abandon. Et je veux vous citer encore un auteur, M. John Eldredge, qui dit, « Il importe de savoir que la guérison ne s'opère jamais en dehors de l'intimité avec le Christ. La guérison de notre blessure dépend de notre union avec lui. » Donc, ici, un verset, mais une citation importante, j'aimerais que vous gardiez, c'est celle-là, aujourd'hui. Donc, on n'a pas de guérison, il ne se passe rien dans notre vie en dehors de notre union avec Jésus, en dehors de notre intimité avec lui. Et c'est lui qui fait le travail. Il continue un petit peu plus loin. Il dit, c'est une œuvre qui ne peut se faire à distance. Vous ne pouvez demander au Christ d'entrer dans votre blessure pendant que vous-même en restez éloigné. Vous devez vous y rendre avec lui. Invitez Jésus dans votre blessure. Et lorsque je suis devenu chrétien, je n'ai pas été sauvé. Il y a eu un acte de foi. Et je n'ai pas été sauvé par faisant « Ah, Jésus sauve-moi. Amen. Sauvé. » Non, j'ai reconnu ma condition de pécheur, j'avais besoin de lui pour être sauvé. J'ai accepté son sacrifice, son amour pour moi. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'étais triste, repentant. Mon cœur était bouleversé. J'étais sauvé. Mais j'ai eu une rencontre avec Jésus. Et maintenant, Jésus est en nous. Et je crois qu'on est encore plus facile d'aller le rencontrer. Il est déjà en nous. Et ce n'est pas une rencontre fortuite. C'est vraiment aller avec lui. Et lui demander, l'abandonner, premièrement, une des étapes importantes, c'est la capitulation. Dire, je reconnais que je ne peux pas m'en sortir toute seule. Je lui abandonne ma vie. Okay? Et reconnaître aussi la gravité de la blessure, pour dire que ce n'est pas grave. Donc, présentant à Jésus ma blessure, regarde ce qui est arrivé, regarde comment je souffre. Et je ne veux pas qu'on pense que c'est du nombrilisme ou de l'apitoiement inutile sur soi. Parce que ça, on peut le faire une fois, aller devant le Seigneur avec ça. Puis après que le Seigneur nous a guéri, là, on passe à d'autres choses. Okay? C'est pas, on ne veut pas jouer à la victime et faire la victimisation toute notre vie jusqu'à ce qui s'est passé. Et Jésus veut le régler. Et après, on peut passer à d'autres choses. On est comme libéré. C'est ça qu'on parle. Donc, oui, Jésus, j'ai souffert. Je souffre encore. Et j'admets que ça fait mal. Et aide-moi à ouvrir la plaie. Seigneur, tu veux la nettoyer? Comme je l'ai dit dans le message, je m'étais blessé, j'ai été chez le médecin. Il fallait que j'enlève la guenille j'avais mis là-dessus là, pour mettre... Il nettoie. Ça ne tentait pas. Pantoute qui nettoie ça. Ça fait mal. Mais après ça, ça a été guéri. Ça a été guéri. Donc, oui, aller devant Jésus devant, avec notre blessure, avec qui on est, et lui dire comment on a souffert. Dire, Jésus, guéris-moi. Comprends-moi. Une autre citation de M. Rostenbach. Si nous voulons que les blessures de notre passé soient guéries, nous devons affronter ce que nous avons ressenti pendant l'événement douloureux. Qu'est-ce qu'on a? Il faut revenir dans le passé des fois. Combien ça me fait mal, ça? Et le présenter à Jésus. Le ressentir. Et dire à Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à la place de la personne qui m'a blessé? Tu n'aurais pas fait ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Est-ce que tu comprends, Jésus, combien je souffre? Est-ce que tu comprends? Et la réponse est toujours oui. Et le fait de lui présenter ma blessure, de me sentir compris, c'est une partie de la guérison. Et là, on peut lui demander, Jésus, peux-tu mettre un pansement, un baume? Peux-tu mettre des points tout de suite? Peux-tu guérir? Peux-tu me consoler? Et le fait d'être avec Jésus, c'est comme si on n'était plus tout seul avec notre blessure. On est avec lui. Comme si là, on est devant le docteur, là, je ne suis plus capable, lui, à droite. Guéris-moi. Je ne suis plus capable. Là, Jésus, il va le faire. Parce que Jésus, on a vu que c'était l'agneau et le lion. Donc, c'est un agneau doux et humble de cœur, mais c'est un agneau qui est puissant. Donc, il est assez doux pour nous recevoir. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais en étant doux, il est puissant pour nous guérir. Okay? Donc, demandons à Jésus aussi d'identifier le mensonge et de remettre la vérité en moi, dans mon cœur. Une autre chose aussi, peut-être que tu te sens sale et tu ne veux pas montrer ça à Jésus. Oh non, je ne veux pas aller avec ça à Jésus. Au sale, je ne suis pas capable. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On a mis ça dans le livre « Doux et humble de cœur ». Et aussi, on va regarder un verset d'un lépreux qui est allé voir Jésus. OK. Matthieu 8, 23. « Et voici un lépreux s'est approché, se prosternant devant lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc ici, le lépreux, il savait qu'il était impur. Okay? Il savait qu'il était impur et à l'époque, ce n'était pas des quarantaines de 10 jours, 14 jours, c'était pour la vie. Il était en quarantaine, il était isolé, loin des autres, hors de la ville. Et quand tu passais proche des gens, il fallait que tu dises impur, impur, impur. pour que les gens te touchent. Si les gens te touchaient, ils pouvaient attraper aussi la lèpre. Les gens ne pouvaient pas toucher du linge que tu avais touché. Donc, c'était vraiment... Donc, ils savaient qu'ils étaient impurs. Seigneur, si tu le peux, tu peux me rendre pur. Jésus répondit. Jésus étendit la main et le toucha. Jésus a touché un lépreux. La loi le défendait et toutes les conventions le défendaient. C'était dangereux qu'il l'attrape. Jésus a touché le lépreux. Jésus a été contaminé. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut guéri de sa lèpre. Donc, Jésus, il vire la malédiction à l'envers. OK? Au lieu que ce soit la maladie qui donne la maladie, c'est que Jésus nous transmet sa pureté et guérit le lépreux. Donc, peut-être que tu te sens sale d'aller devant Jésus. Tu dis, oh, je ne suis pas capable. Mais Jésus est venu pour ça, que toi. Et quand Jésus nous touche, il change qu'est-ce qui est sale en pureté. Et tu n'es pas sale. Si tu as dit ça, mais même si tu as l'impression que tu l'es, ça t'empêche d'aller vers Jésus, toi, même si je pense que je ne suis pas propre, que je ne peux pas être devant Jésus, Jésus va m'accueillir comme il a accueilli le lépreux, et quand il va me toucher, il va me purifier complètement. Même si, probablement, c'est juste dans votre tête, dans votre cœur que vous vous sentez sale. Mais Jésus va enlever cette impression-là que vous avez. Donc, laissez Jésus vous aimer et vous guérir, guérir votre cœur. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. On a-tu du temps? Oui, un petit peu. Je vais vous parler d'une de mes blessures. J'en ai trois. Ça m'a aidé à en trouver trois. Je vais vous parler de la principale. Une de mes blessures s'est passée dans mon enfance. C'est une personne de mon entourage qui m'a ridiculisé et m'a rabaissé pendant 3, 4, 5 ans, quelques années, OK? Dans mon enfance. C'est une personne qui était jalouse de moi. Et elle exagérait négativement certains de mes traits physiques, certains de ma personnalité aussi, introvertie. Et cette personne-là faisait ça toujours quand on était juste nous deux. Je savais qu'elle aurait été reprise si elle l'avait fait devant d'autres personnes. Donc ça a mis un mensonge en moi. Pour moi, c'était la vérité, là. Je disais, mes vérités, c'était ça. Il a raison, je ne suis pas beau. Je suis niaiseux. Je n'ai pas de valeur. Personne ne va m'aimer et m'accepter tel que je suis. Il ne vaut pas la peine qu'on s'intéresse à moi. Peut-être qu'il y a des gens ici, sans doute, qui s'identifient à ça. Donc, mais les mensonges, pour moi, ce n'était pas des mensonges, c'était de la vérité, c'était bien réel. Ma réaction maintenant, comment j'ai réagi? Dans mon enfance et ma préadolescence, j'étais archi-timide. À l'école, le professeur me posait une question, je la savais, je ne répondais pas, je venais rouge. Pas capable de répondre. Quelqu'un me saluait, je ne répondais même pas. Archi-timide. Pas confiance en moi. Et ma personnalité introvertie venait amplifier. Et souvent, on est blessé là où on est comme le plus faible, on est le plus vulnérable. Le diable le savait. Je me voyais comme inférieur aux autres. J'avais peur de déranger, peur de m'affirmer, peur de déplaire, peur d'être abandonné. C'est dans mon enfance. À l'âge de 16 ans, l'adolescence est arrivée. Là, j'ai dit, bon, je voulais être accepté. Donc là, j'ai dit, je vais tout faire pour être accepté de mes pairs, puis IRS, mes semblables, mes amis. Donc, il faut que je fasse pour être valorisé. Et dans mon milieu, qu'est-ce qui était valorisant à cette époque-là, quand on avait 16, 17 ans, c'était de prendre un coup, prendre de la boisson. OK? Et si tu voulais être un homme, tu voulais être quelqu'un, il fallait que tu prennes un coup, il fallait que tu sois capable d'en prendre aussi pour être un bon buveur. Et j'ai commencé à prendre la boisson. Et même, je suis devenu quasiment un des meilleurs de ma gang, là, prendre de la boisson. Malheureusement. Et ça, ça a eu un effet aussi que ça m'a dégêné. Et j'avais. Quand on est en boisson, réchauffé, on est moins. Craintif, hein? On a moins peur d'être blessé. Donc, j'étais comique aussi. Les gens avaient bien du fun avec moi. Ça fait que j'ai eu comme un sentiment d'appartenance à mon groupe, valorisation par ça. Drôle, hein? Ça m'a valorisé. Une autre chose qui était valorisée, c'est qu'il ne fallait pas que tu sois un ange. Il fallait que tu sois un peu game,
pas une mauviette. Il ne voulait pas que tu sois une mémère. Il ne voulait pas que tu sois barré à 40, comme on dit. Ça fait que je me suis mis à faire des petits coups pour montrer que j'étais brave. Là, sauf que je ne faisais pas de coups à mes amis parce que moi, c'était la loyauté totale pour garder mon sentiment d'appartenance, garder mes amis. Ben, à force de faire des petits coups, maintenant, je me suis fait arrêter par la police. J'ai même eu un casier judiciaire, au pire de le dire. Là, mais, pas fait de prison, pardon. Pas encore. mais je ne croyais pas que ça valait la peine d'aller en prison pour ça. Mais quand même, il y a eu un dossier judiciaire. Donc, ça devenait assez sérieux. Quand le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie pour m'amener à lui, que je sois sauvé, quand j'ai dit, Seigneur, moi, ça n'a pas de bon sens, tout à fait là, qui continue. Là, je me disais, si je deviens chrétien, mes amis vont me rejeter, je n'aurai plus de valeur à leurs yeux, ils ne s'intéresseront plus à moi. Et je ne le disais pas, mais je ne savais pas, je me disais, je ne pourrais plus couvrir ma blessure. Consciemment, c'était ça. Il n'y aurait plus de protection. Et là, il y a le fameux verset que vous connaissez. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc, j'avais un choix à faire. Soit que je gardais ma vie telle qu'elle était là, et la perdre pour plus tard. Si je la perds pour Jésus, je vais la conserver pour la vie éternelle. Donc, j'ai fait le bon choix. Merci Seigneur. Il m'a tellement mis de pression. Il m'a tellement montré combien il était grand, combien j'étais pécheur, combien j'avais besoin de lui. Et combien j'étais perdu sans lui. Donc, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Sauf que les conséquences que j'appréhendais sont arrivées. J'ai effectivement été rejeté par ma gang de chums. Il n'y avait plus de fun avec moi. J'étais rendu plate. Et quand je les voyais, l'atmosphère était tendue, c'était froid. Je sais qu'ils ont parlé beaucoup en mal de mon dos. J'étais capoté sur la Bible. Fait que... C'est sûr que ça m'a fait quelque chose, mais ce n'est pas une de mes blessures. Mes blessures remontent juste à l'enfance. Donc, j'ai perdu mes amis et la valorisation qu'il y allait avec. Une petite parenthèse, d'autres réactions que j'aurais pu avoir à cause de mes blessures, j'aurais pu, au lieu de prendre la boisson, j'aurais pu dire, bon, moi, là, je vais étudier, je vais être super compétent, je vais être le meilleur. Donc, ça m'aurait valorisé. Je voulais d'ailleurs, j'avais commencé à étudier à l'université pour avoir un diplôme, pour faire de l'argent, pour être quelqu'un dans la vie. J'aurais pu aussi m'embarquer juste dans les choses où j'étais sûr de réussir, là, où je pouvais contrôler pour ne pas périr de moi, pour ne pas échouer. Donc, comment Jésus a guéri ma blessure? Ah, là, c'est une autre affaire. Donc, ma conversion a changé à un certain point, dans le sens que la boisson était remplacée par le Saint-Esprit. J'étais pas aussi timide que je l'étais avant. Je n'étais pas aussi extraverti, parce qu'à l'emploi de la boisson, on le devient pas mal. Mais j'étais devenu moins extraverti. Et j'ai eu des bons amis qui étaient valorisants, qui m'ont aidé. Donc, ça a contribué à guérir partiellement mes blessures. À travers certaines lectures de livres, comme ce que j'ai montré tout à l'heure, et la Bible, le Seigneur m'a montré que, oui, j'avais des blessures dans mon passé et que je devais régler ça. Ça a pris au moins 25-30 ans après que je sois sauvé, là. T'sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc, j'aurais pu mourir à ce moment-là, je serais allé au ciel pareil. Okay? C'est pas ces blessures-là qui m'empêchaient d'aller au ciel. Mais quand même, Jésus veut notre bien, il voulait guérir ces blessures-là. Donc, je suis venu à Jésus, j'ai demandé qu'il me montre vraiment que si j'en avais des blessures, je n'étais pas trop conscient de tout ça. Là, il m'en a montré trois. Et la principale, c'est celle que je vous ai parlé tout à l'heure. Et je suis venu devant Jésus, je lui ai expliqué ma douleur. J'ai demandé de visiter mon cœur, je l'ai ouvert. Il dit, garde comment ça m'a fait souffrir. Et que sans réaliser, je souffre encore, ça m'influence encore. Jésus, est-ce que tu comprends combien j'ai été blessé? Tu étais là, tu as vu tout ça. Veux-tu me révéler les mensonges qui sont venus avec ça? Là, ils m'ont montré les mensonges, mais... sentiment d'infériorité et tout ça qui sont venus avec ça. Qu'est-ce que tu aurais fait, Jésus, si tu avais été à la place de cette personne-là qui m'a agressé? Jésus n'aurait pas dit ça, Jésus n'aurait pas fait ça, il aurait été valorisant. Donc, c'est un mensonge, qu'est-ce qui a été fait. Donc, j'ai demandé à Jésus de me guérir et de venir en moi. J'ai montré ma blessure et ça n'a pas pris 2 minutes. Mettons, c'est une demi-heure, là, j'ai vraiment réfléchi avec lui, tout ça. Le processus a pris du temps. Quand c'est venu le temps d'aller devant Jésus, on a eu un temps merveilleux ensemble. Et on a confié tout ça à Jésus, et Jésus a mis un baume là-dessus, m'a guéri. Toutes les blessures que j'avais, un peu plus tard, ça m'a aidé à guérir ça aussi. Et je me suis senti libéré, ça a enlevé les mensonges qu'il y avait dans mon cœur, je me suis senti compris. Et la dernière étape, c'était le pardon. Peut-être ici, vous avez vu un mouvement de recul intérieur, le pardon. Oui, minute, Yvan, là, tu en demandes trop. La personne a trop fait, la personne ne m'aimait pas, je pourrais pardonner. Je n'ai pas le goût. C'est vrai, on n'a pas le goût. Et pourquoi pardonner? Ben, le Seigneur me demande de pardonner. On se souvient du serviteur qui son maître avait pardonné beaucoup, remis beaucoup d'argent au lieu de l'envoyer en prison. Et quand le serviteur a été libéré, il a vu un de ses amis qui devait une petite somme. Il a sauté au cou et il a dit l'envoyer en prison jusqu'à ce qu'il paye. Donc, devant l'amour de Jésus pour nous, c'est plus facile de pardonner les choses plus petites que nous ont été faites. Parce que Jésus est mort sur la croix pour moi, fait beaucoup. Et pour un enfant de Dieu, c'est plus facile de pardonner parce qu'on connaît ce que la grandeur de l'amour de Jésus, ce qu'il a fait pour moi. Quand j'étais pas chrétien, moi, j'étais pas porté au pardon. J'étais vraiment, tu me fais quelque chose, tu vas payer tôt ou tard. C'était la justice. Mais en Jésus, c'est différent. Et dans Notre Père, quand Jésus nous a montré à prier, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et j'ai assisté à une conférence à un moment donné dans le cadre de mon travail, c'était sur le pardon. Et le conférencier a cité un proverbe indien qui disait, tu ne peux pas empoisonner ton ennemi en buvant toi-même le poison. Donc, l'amertume, la colère, c'est du poison. Et la personne qui t'a blessé, je ne me rappelle peut-être plus, ça ne dérange pas que tu l'haïsses, que tu ne lui pardonnes pas. Ça, il fait pas mal. Mais toi, ça te fait mal, cette amertume-là. Toi, ça t'affecte. Et je me souviens d'un ancien collègue de travail qui a été vraiment subi une injustice au travail. Et il a dû suivre une thérapie. Et après 6 mois, je l'ai rencontré. J'ai dit, comment ça va? Il dit, ça va bien. Et la dernière étape, c'est le pardon. Donc, même la thérapie séculière, le pardon est important. Quelqu'un a dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier. Il découvrait que le prisonnier n'était autre que soi-même. Pardonner, ça ne veut pas dire de minimiser l'offense. Qu'est-ce qui a été fait, c'est grave. C'est une autre citation de M. David Paulison dans son livre « Vers une relation d'aide renouvelée ». Identifiez les péchés précis qui ont été commis contre vous. L'amour de Dieu vous donne le courage d'affronter le mal directement. Le fait d'identifier les torts vous aide à déterminer l'objet du pardon. Donc, ne pas glisser ça sur la table. « Oh, c'est pas grave, c'est pas si pire que ça. » C'était grave et vous avez du ressentiment, de l'amertume. Donc, c'est bon de demander pardon. Ou de pardonner. Des fois, on ne peut pas demander pardon. Pas demander pardon, mais c'est de pardonner. Pardonnez-moi. Donc, c'est ne pas dire que ce n'est pas grave, mais c'est grave. Mais je vais pardonner. Une autre citation de Neil Anderson, il dit, « N'attendez pas d'être dans les bonnes dispositions pour pardonner, car vous ne les aurez jamais. » Donc, on n'a pas le goût de pardonner. Le pardon, c'est une décision, un acte de la volonté. Seigneur, tu me demandes de pardonner. Oui, je pardonne. Je le libère de ce qu'il me fait. Je le libère volontairement. Et après, je vais l'avoir libéré. Ça va être plus facile. Les sentiments vont venir après. Tu vois, deuxième phrase. Une fois que vous aurez pris la décision de pardonner, vos sentiments blessés guériront avec le temps. Ça prend du temps. Il ne faut pas guérir automatiquement les sentiments d'amertume qu'on a. Et il faut penser que celui qui m'a blessé avait ses propres blessures aussi. Pas dans quel environnement il a grandi et tout ça. Il avait sa petite blessure. Et le secret pour nous aider à pardonner, c'est de prier pour lui ou pour elle. C'est pas facile. Et quand on prie pour quelqu'un qu'on n'aime pas, qui est notre ennemi, demandez au Seigneur de lui faire du bien. Fais-lui du bien. Bénis-le. C'est pour ça qu'on lui souhaite. Mais demandons ça, puis le Seigneur nous enlève l'amertume, nous donne de l'amour. Donc, Pour terminer, je vous invite encore à venir à Jésus. Jésus n'est pas dangereux. Il est doux et humble de cœur. Et même s'il est doux, il n'est pas faible. Il est puissant, capable de vous guérir. Jésus dit dans Matthieu, verset chapitre 11, « Venez à moi, vous, moi et vous, je comprends tout le monde, hein, sans exception, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, Jésus peut nous donner du repos. Donc, êtes-vous fatigué d'essayer d'être fort, d'essayer de vous en sortir par vous-même, de lutter avec certains péchés qui découlent d'une blessure? Bien, venez à Jésus pour obtenir sa guérison, son repos. Donc, je vous remercie. On va terminer dans un mot de prière. Seigneur, merci d'avoir le pouvoir de nous avoir libérés de notre péché, de nous libérer de l'enfer. Merci aussi, Seigneur, d'avoir le pouvoir de nous libérer de nos blessures du passé. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de notre cœur. Tu veux qu'on soit guéri. Et Seigneur, on peut trouver ça en toi, mais dans notre relation avec toi, Seigneur, dans notre intimité avec toi. Seigneur, puissions-nous aller dans l'intimité, discuter avec toi de ce qui nous est arrivé, te présenter ça, te demander, Seigneur, ta compréhension, ta guérison, ta consolation. Et merci, notre Dieu, que tu nous montres combien tu nous aimes et combien tu nous comprends et que tu as désir de nous guérir. Seigneur, c'est des personnes ici qui ont été touchées ce matin. Je te prie de les aider, Seigneur, à aller à toi, demander, Seigneur, que tu les guérisses. Et les aider, Seigneur, avant, devant toi, à ouvrir leurs blessures, leur exposer ça. Et, Seigneur, je te prie de les guérir pour de bon. Et on te demande ça dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.